Loup. Dans ce journal, on parlera des festivités du Heiva et du 14 juillet, des Jeux Olympiques qui se préparent et d'un changement de direction à la DG2E. Le journal de 7h, c'est avec Lucie Rabréo. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
On commence ce journal avec les festivités du week-end, Lucie.
Oui, et il y en avait beaucoup. D'un côté, les dernières soirées du concours du Heiva que vous pouvez revoir en photo sur notre site, les jeux traditionnels au parc Veireil, les courses hippiques à Crue et en Paréo, et les courses de va en V16. Et de l'autre, les fêtes nationales avec le 14 juillet que l'État a fêté samedi pour des raisons logistiques. Une fête populaire à laquelle le haut-commissaire a souhaité mêler chants et danses traditionnelles. Le public a d'abord pu voir les forces de sécurité et de secours du Fénois, les agents de la base navale, du groupement aéronautique militaire de Faha, puis ce sont les cortèges motorisés et quelques avions qui ont survolé Papeete avec le Dauphin, le Casa et le Gordian. Après l'artillerie, place à l'artistique avec l'organisation d'un véritable mini-Heiva, avenue Puvanaha au Pas. Ces représentations proposées par des acteurs de la culture ont donné du sens au discours prononcé quelques minutes avant par Eric Spitz. Le haut commissaire a parlé d'unité et d'acceptation de la diversité culturelle. Pour lui, la Polynésie est un exemple pour le reste du monde. On l'écoute.
Les trois couleurs de la République, le bleu, blanc, rouge, et la liberté, l'égalité et la fraternité que nous célébrons aujourd'hui. Et je crois que ce que j'ai dit dans mon discours, c'est que la Polynésie pouvait être un exemple pour la France, parce qu'ici, on a encore le vivre ensemble et la force de la culture maori fait que on peut aussi donner, être un exemple pour la France et même pour le reste du monde.
Et à Paris, c'est 58 militaires de la première compagnie du RIMAP qui ont défilé pour les festivités du 14 juillet. Ils ont été désignés pour honorer l'engagement des Tamaris volontaires pour la France. Parmi ces 58 désignés, 12 n'avaient jamais quitté le Fénois. Il leur a fallu 3 semaines de préparation intense et de répétition pour être fin prêt. On écoute le lieutenant Aïtamei, commandant d'unité de la première compagnie.
C'est tout naturellement que le chef de corps nous a désignés parce que la plupart d'entre nous, on va dire 80% d'entre nous, on est d'origine polynésienne et 20% un peu métropolitains qui sont installés ici. Mais l'ensemble est une compagnie locale. Parce que la particularité du RIMA, elle a 3 compagnies. La première, c'est la compagnie de réserve locale, c'est nous. Et les 2 autres, ce sont des compagnies tournantes. C'est des compagnies de métropole qui viennent tous les 6 mois, tous les 4 mois. Et donc, je pense que c'était plus parlant de désigner des locaux.
Par contre, ils s'attendaient à un climat d'été et pas de chance. Il faisait 10 degrés à leur arrivée. Le défilé en chemise n'a pas été facile.
Une autre fête se déroulait aussi à Punaouia.
Oui, celle de l'Orange. Concours de danse, atelier d'artisanat, concert et bien évidemment le défilé des associations et des porteurs d'orange. Les porteurs qui ont ramené les précieux agrumes des plateaux Tamanou. Précieux parce qu'ils se font cette année encore plus rares que les années passées, selon l'association de protection de la vallée. La faute aux tulipiers du Gabon, aux miconias et autres espèces envahissantes qui prolifèrent malgré les campagnes de nettoyage régulières. Les précisions d'Arikinoui Nordoff, secrétaire de l'association.
La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est très peu à réagir. Parmi les porteurs d'orange, sur 200, on est à peine entre 10 et 20 à être actifs pour lutter contre ces pestes. Donc le problème, il est là aujourd'hui. Si ça continue comme ça, dans 10, 15, 20 ans, au final, ce qu'on fait nous, ce que nous, les 10, 20, on fait aujourd'hui, ça aura servi à rien parce qu'au final, la surface à traiter, elle est tellement grande qu'à 10, on peut pas se sortir. On a un manque d'implication des porteurs d'orange. Ils sont tous présents là à l'ouverture de la cueillette pour la cueillette, mais le reste de l'année, on ne les voit pas.
Alors pour pallier ce manque d'investissement de certains porteurs, l'association envisage d'activer plusieurs leviers dans les prochaines années. Il s'agirait par exemple d'imposer un certain nombre d'interventions bénévoles annuelles aux adhérents. Mais l'association pense également à des interventions rémunérées qui seraient faites par des salariés ou des prestataires. Car l'horloge tourne et les espèces envahissantes continuent de s'étendre et de grandir. Écoutez.
Donc aujourd'hui, on n'est plus à du simple arrachage de Miconia. Les petites campagnes d'arrachage de Miconia, ça va à un moment. Mais là, les Miconia qu'on a mis là-haut, les tulipiers du Gabon, ils font 30-40 mètres de haut. Donc on n'est plus dans de l'arrachage, du simple arrachage. Là, il y a de l'abattage à faire, il y a de l'élagage à faire. Donc on a formé 26 bûcherons, 16 élagueurs. Mais voilà, il faut arriver à mobiliser tous ces gens-là bénévolement. Ça fonctionne, mais là, on arrive aujourd'hui aux limites du bénévolat.
Et en parallèle, le projet de pépinière engagé en 2019 par l'association est sur le point de se terminer. Au total, 600 plants ont été mis en pot, mais il faudra attendre au moins 8 ans avant de pouvoir les mettre en terre.
Et c'est une autre fête qui se prépare avec le plan zéro délinquance.
Oui, celle des Jeux Olympiques, bien sûr, pour laquelle les forces de l'ordre ont voulu faire place nette, comme ils l'expliquent. Depuis décembre, un certain nombre d'opérations de lutte contre la délinquance ont été organisées à Tahiti et dans les îles, en application donc de ce plan zéro délinquance lancé à l'échelle nationale. Bilan, on écoute le colonel Grégoire Demaison, commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française. Il a répondu à nos questions lors des fêtes du 14 juillet.
On a détruit à peu près 15 000 plants de cannabis. On a réalisé une cinquantaine de gardes à vue et on a saisi plusieurs millions de francs pacifiques d'avoirs criminels. Puisque l'enjeu pour nous, comme le soulignait Monsieur le Haut-Commissaire lors de son intervention sur cette opération, c'est d'aller chercher l'argent des délinquants, d'aller frapper au portefeuille, parce que c'est ce qu'il y a de plus dissuasif pour impacter la délinquance de manière significative.
Et les contrôles vont se poursuivre, tout comme les efforts de lutte contre le blanchiment. Alors à quelques jours des JO, sont-ils prêts? Oui, assure le colonel. Les forces de l'ordre ont répété leur dispositif pendant l'étape de Tahiti de la WSL. Et puis ils ont aussi fait différents exercices.
On a un dispositif qui est maintenant adapté à la fois aux attentes du comité d'organisation des Jeux Olympiques et adapté aux attentes de la population également, pour qu'on génère le moins de gêne possible aux habitants localement. Et donc c'est cet équilibre qu'on a cherché à trouver et je pense qu'on l'a trouvé. Donc on est en train de conduire notre déploiement opérationnel dans la presqu'île cette semaine et à partir du week-end prochain, on sera sur les différents points de contrôle pour s'assurer que cette très belle fête populaire se déroule dans de bonnes conditions.
250 gendarmes sont mobilisés sur terre et sur mer, ainsi que des forces d'ordre public et de police judiciaire. Cela se traduira par plusieurs points de filtrage sur terre et en mer afin d'éviter la saturation des sites olympiques et d'assurer la sécurité des lieux.
Et d'ailleurs, le haut-commissaire a rappelé la logistique olympique.
Oui, avec la réglementation d'accès à Teahupo, le périmètre de protection autour du PK0 sera installé dès le 20 juillet pour le début des sessions officielles d'entraînement et restera en place jusqu'au 5 août. Il va de la mairie annexe de Teahupo jusqu'au domaine rose et sera matérialisé par un point de filtrage de la gendarmerie. Côté mer, plusieurs restrictions de navigation sur le lagon ont été mises en place, là aussi avec un système de laissez-passer. Elles concernent le lagon de Teahupo, mais aussi une petite zone autour du point de mouillage de Laranui devant Veirao. Et enfin, il sera impossible de survoler la zone des JO.
Actualité sociale maintenant avec ce chiffre.
Oui, 38 500, c'est le nombre de personnes considérées en situation de pauvreté selon leurs conditions de logement. Une statistique qui concerne la société, les Marquises et les Australes et qui est tirée d'une étude sur le logement. Elle a été réalisée par l'ISPF sur la base des résultats du recensement 2022 et a été présentée vendredi. Dans le détail, sont considérés en situation de pauvreté les ménages vivant avec au moins un manque de confort. Et l'ISPF en a défini 8, comme le fait d'avoir ou non l'électricité, l'eau courante, un système d'évacuation des eaux usées, des toilettes, une douche intérieure ou encore une machine à laver. Si on regarde l'étude réalisée en 2022 dans le détail, on note par exemple que près d'un logement principal sur 10 n'a pas accès à l'eau courante au Raromatei. Un logement sur 10 aussi, mais aux Australes, n'est pas équipé de salle de bain intérieure. Et autre exemple, 7% des foyers marquisiens n'ont pas de toilette intérieure. Selon l'ISPF, il y a par ailleurs encore 1100 ménages qui cumulent 5 manques ou plus parmi la liste citée tout à l'heure. Mais les choses s'améliorent car en 2012, c'était 19% des ménages qui étaient considérés comme pauvres.
On l'apprend, Éric Tournier quitte la DG2E.
Oui, l'ancien inspecteur général, aussi passé par les cabinets des ministres de l'Éducation nationale, était à la tête de la Direction générale de l'éducation et des enseignements depuis plus de 3 ans. Une aventure absolument exceptionnelle, a-t-il dit à Radio 1, à la tête d'un système éducatif qui ne ressemble à aucun autre, et notamment à cause de la géographie de la Polynésie.
La gestion de l'éloignement pose vraiment la nécessité d'innover. C'est pour cela qu'on a créé depuis quelques années des classes de 6e dans les écoles pour que les enfants partent plus tard, ne quittent pas leur famille en fin de CM2 mais en fin de 6e. Et peut-être qu'il faudra aller plus loin et inventer une école qui permette aux enfants de rester encore un peu plus longtemps dans leur île. Après, on a un autre effort à faire parce qu'à un moment donné, de toute façon, il faudra bien venir dans une plus grande île et donc il faut que les conditions d'accueil, d'hébergement, de vie dans nos internats continuent à s'améliorer.
Il faut aussi, selon lui, différencier le système éducatif local du national. La politique éducative de la Polynésie consiste à faire en sorte que l'école ressemble aux Polynésiens et les rassemble. Un enfant peut bien apprendre que quand on lui parle de chez lui.
Si on veut que tous les élèves arrivent à bien rentrer dans les apprentissages, il faut qu'ils se sentent bien et reconnus dans l'école. Et pour se sentir bien et reconnus dans l'école, il faut que l'école parle aussi les langues polynésiennes, que dans l'école, on y trouve les pratiques culturelles, qui sont celles de cette société, de cette population. Et donc, c'est sur cette base, sur ce socle des langues et de la culture polynésienne, qu'on va pouvoir ouvrir les élèves à la connaissance et à l'universel.
Concernant les nouveaux rythmes scolaires, l'ancien directeur de la DG2E explique que les élèves français travaillent plus que d'autres dans le reste du monde. En Nouvelle-Zélande et en Australie, par exemple, les écoliers vont à l'école environ 20 heures par semaine, soit que le matin. L'idée était donc de suivre la tendance mondiale avec des rythmes mieux adaptés aux jeunes enfants. Retrouvez son interview en intégralité sur notre site. Et enfin, c'est son adjoint, Rainui Hugon, qui le remplacera.
En bref, ce fait divers avec cette maison entièrement détruite par les flammes.
Oui, ça s'est passé dimanche dans la vallée de Tiperui. Selon Polynésie La Première, il s'agit d'un acte volontaire déclenché par une dispute conjugale. C'est le père de famille qui serait à l'origine de l'incident, qui n'a fait aucune victime. Celui-ci a été interpellé. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information dans quelques minutes pour la revue de presse.
Merci beaucoup Lucie, on passe à la météo sur Radio.